Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute ! Hello, bienvenue dans cet épisode de podcast où on va parler essai bébé et lâcher prise. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans le podcast, hein, la question du lâcher-prise, ce concept, un petit peu comme la savonnette entre les mains qui glisse, on essaye d'y accéder, on sait que ça existe, et puis qui nous échappe malgré qu'on a tellement envie de se lâcher-prise, et tout le monde nous dit de lâcher-prise, mais on ne sait pas trop comment faire, et quand on commence à accéder à ça, ça s'envole, ça glisse. Alors, je me suis appuyer sur le retour d'expérience de certaines de mes accompagnées. En fait, je crois qu'il faut que j'écoute encore plus, même si c'est déjà ce que je fais, que j'écoute encore plus les séries de séances, de visio que je peux avoir, que ce soit visio ou présentiel, parce que ce que je remarque, c'est que souvent, je vais avoir des séances qui vont parler de la même chose, des mêmes concepts, pas forcément les essais bébés, le postpartum, etc., mais justement des notions comme ça que les personnes touchent du doigt et qu'elles peuvent décrire, ou alors des problématiques qu'elles peuvent décrire aussi qui vont être un peu constantes et régulières, qui vont venir en série dans mes accompagnements. Et c'est là où je me dis, ok, faut qu'on en parle, parce que faut qu'on en parle, c'est un sujet qui concerne plusieurs femmes, qui concerne certainement plein de gens, finalement, et c'est comme ça que je construis mes épisodes de podcast, et là, je prends note quand je discerne un sujet comme ça qui se réveille, soit où je me dis qu'il y a une clé qu'il est important de partager, un retour d'expérience intéressant ou une réflexion, ou alors justement une problématique récurrente où j'ai des clés mais que j'ai envie d'élargir à l'échelle d'un accompagnement plus large, à travers le podcast notamment. Alors parlons de ce fameux lâcher prise. Alors je ne suis pas là pour donner des grandes leçons, de donner un mode d'emploi sur le lâcher prise, parce que c'est pour moi un sujet assez sensible, parce qu'on touche à la fois à quelque chose qui concerne toute une population de personnes qui sont dans cette période très délicate de « on essaye d'avoir un enfant », ça peut toucher des personnes qui sont en essai bébé et qui vivent la cyclicité de façon normale, même si émotionnellement ça peut être parfois très éprouvant, et puis ça peut concerner des personnes qui sont concernées. Non, ça veut rien dire. Ça peut toucher des personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle l'infertilité, et donc un diagnostic qui peut être posé de « ça ne fonctionne pas, ça met plus de temps que prévu », et donc les états émotionnels vont bien sûr être dissociés, différents. Et d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, on vit pas du tout les choses de la même façon. Donc voilà, faut vraiment prendre ce que je vais partager avec ce recul-là. Mais je trouve que ce partage d'expérience a été déjà génial pour moi en tant qu'accompagnante d'avoir leurs mots à ces femmes qui, en l'occurrence, c'était des femmes qui peut-être se reconnaîtront si elles écoutent le podcast, sur comment elles ont accédé à cet état de lâcher prise. Et quand je les ai écoutées, j'ai senti vraiment un soulagement dans leurs mots. Et c'est pour l'histoire, c'est deux femmes que j'accompagne depuis quelques temps maintenant, et que j'ai vu évoluer dans les états psychologiques de leur désir d'enfant. Elles en sont pas toutes les deux au même stade, mais peu importe, elles m'ont toutes les deux dit le même jour comment elles ont identifié qu'elles lâchaient, qu'elles parvenaient à se lâcher prise, qu'est-ce que c'est pour elles. Et je leur ai demandé si t'avais un conseil à donner à toi d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an, qu'est-ce que tu dirais, et enfin comment tu décrirais ce lâcher prise. Elles ont posé des mots, donc je me suis dit que les partager pouvait être fort intéressant, parce que peut-être que vous, ça pourrait aussi vous éclairer. Et donc ce que j'ai pu comprendre auprès d'elles, c'est que après, donc c'est pas des femmes qui sont en essai bébé depuis 2 mois, hein, y a du temps qui passe. Elles sont pas non plus dans un délai de de plusieurs années, voilà, c'est vraiment une fourchette entre deux, où elles ont expérimenté un peu l'euphorie des débuts des essais bébés, et puis une grosse désillusion du fait que ça marche pas rapidement, un état de... ben, ouais, qu'on pourrait assimiler à de la dépression, en tout cas un état dépressif, des grands remous émotionnels, des angoisses, de l'anxiété, un abattement, et puis un état d'obsession. Et ça, c'est des choses qu'elles ont pu décrire et que je vois très très régulièrement en accompagnement. On travaille beaucoup sur cette question de l'obsession. Où mettre dans notre vie le projet bébé, quelle place il doit prendre dans cet espace où on a aussi d'autres choses à vivre et en même temps, bah, c'est un réel projet. Et comment ne pas sombrer psychologiquement dans cette étape où finalement ça vient pas tout de suite et le temps passe et on ne sait pas quand ça va arriver, et même si on met toutes les chances de son côté, on fait plein de choses, on se renseigne en accompagnement notamment, et puis peut-être d'autres pratiques comme l'ostéopathie, la naturopathie, etc., eh bien on essaye d'avancer, mais tout de même, eh bien chaque mois, il y a, ou chaque cycle, hein, si les femmes n'ont pas une cyclicité régulière et moyenne, eh bien il va y avoir des émotions de « il faut recommencer » et ce que j'ai fait, voilà, tout ce que j'ai pu projeter le mois dernier, ben ça n'a pas servi pour ce mois-là, et hop, on reprolonge l'effort, et ça peut être vraiment douloureux, quoi. Et donc... la question de se lâcher prise, là, alors il n'y a pas, je pense qu'elles n'ont pas le forcément à transmettre le secret de la vie éternelle, hein, où il n'y a pas une immense recette, mais j'ai trouvé que cette leçon, elle était super. C'est que d'une, elles avaient lâché cet état d'obsession, mais elles ne l'ont pas fait tout de suite, c'est-à-dire qu'elles ont eu besoin aussi de traverser ces phases-là, où les essais bébés prenaient une grande, grande place. Et c'est comme ça qu'elles se sont confrontées à leurs limites, hein, leurs limites psychiques, voire physiques, sociales, à s'empêcher de faire des projets au cas où la grossesse arrive, et à ne penser qu'à ça, et parfois ne pas vouloir voir du monde parce que bah, le moral n'est pas au rendez-vous, et ça va un temps. Et c'est des femmes qui ont senti que cet état d'esprit d'hyper-contrôle, si la grossesse arrive rapidement, ça va. Enfin, encore que je dis ça va, mais ça mérite d'être accompagné tout de même, hein, c'est bien pour ça que j'existe aussi. Mais si ça dure, de toute façon, psychologiquement, tu ne peux pas tenir dans cette obsession, c'est pas possible. Tu te détruis, tu t'auto-détruis. Et donc, cet équilibre, il consiste pour elle à avoir affirmé la volonté d'avoir un enfant, de concevoir un enfant et de maîtriser ce qu'elles peuvent maîtriser, c'est-à-dire de comprendre leur cycle, d'avoir un œil sur leur vie de femmes sur leur vie reproductive, donc de comprendre quand est-ce qu'elles ovulent, quelle est la période fertile, ça c'est des discussions encore une fois qu'on travaille en accompagnement, on met tous les éléments sur la table et puis on essaye de comprendre qui elles sont, comment leur corps fonctionne, et je suis là pour aussi leur apporter des informations, vous apporter des informations pour bien comprendre, ben voilà, quand est-ce qu'on peut concevoir un enfant. Et au début, ça peut demander une certaine dose de contrôle, de prendre sa température, de faire des tests d'ovulation, d'observer sa glaire, sa température, il y a plein de choses de possibles. Et puis aussi sur le côté fertilité, recadrer son alimentation, son hygiène de vie, prendre le temps de parler pour comprendre aussi les liens psychiques qu'il peut y avoir, soit pour... voilà, pour lâcher justement le trop-plein émotionnel et s'ouvrir à une maternité, faire la place. Et puis quand le temps passe, s'il y a un diagnostic d'infertilité, si ça fait de nombreux mois qu'on essaye, voir s'il y a un blocage, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire dans une période de volonté d'avoir un enfant et de concevoir. Donc elles ont fait ce travail-là. Parfois, la cyclicité fait que... ben, ça revient régulièrement, le cycle est normal, on arrive à détecter la phase ovulatoire au-delà de la prise de température, au-delà des tests d'ovulation, on apprend à connaître son corps et finalement, eh bien, on peut se rendre compte que ça revient à peu près tout le temps à la même période. Donc on peut lâcher un peu, on peut lâcher le contrôle quotidien avec la température, etc. Ça, c'est pas pour toutes les femmes, il y a aussi des femmes qui n'ont pas cette chance d'avoir une cyclicité très régulière, donc il peut y avoir des pathologies sous-jacentes comme le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques notamment, qui fait que bah, la cyclicité elle n'est pas si facile à détecter, même si il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider à réguler la cyclicité, mais ça c'est un travail en amont, donc voilà, c'est un peu plus laborieux dans ces conditions. Et puis, ben, parfois, on peut pas. Il y a des stérilités, etc. Là, je parle vraiment des personnes qui sont pas concernées par ça, mais qui peuvent, du coup, au bout d'un moment, rentrer dans une forme de routine autour de ces essais bébés qu'elles ont acquis. Même l'hygiène de vie, en fait, elles commencent à rôder, à avoir une prise alimentaire satisfaisante, à avoir un rythme qui les satisfait sur leur volonté de mettre toutes les chances de leur côté. Du côté masculin aussi, c'est des discussions, alors masculin ou coparent, c'est des discussions sur bah voilà, l'hygiène de vie, la relation de couple, etc. Et une fois que tout ça s'était ancré, ce qui s'est passé, c'est que elles ont réussi à développer un lien de confiance avec elles-mêmes. Et ça, c'était pas là dans la période obsessionnelle. Et donc le message derrière, c'est déjà de se faire confiance, de se dire « Ok, il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses qui sont pas en mon pouvoir, et mettre toutes les chances de mon côté, c'est pas forcément mettre toute mon énergie dans mes essais bébés, c'est deux choses différentes. » Et ça, c'est pas toujours simple à mettre en place, surtout au début, quand ça fait quelques cycles, parce que on a un peu cette illusion de « plus je vais en faire », et puis on tape sur Google « comment optimiser sa fertilité », etc. Il y a plein de possibilités, autant sur, comme je le disais, l'alimentation, l'hygiène de vie au sens large, on peut faire des pratiques douces, du yoga, des pratiques spécialisées, se remettre au sport, enfin recadrer sa pratique sportive, le côté social. Il y a des médecines comme l'ostéopathie, l'acupuncture, bref, il y a plein de possibilités. Des soins que je propose aussi, hein, je crache pas dans la soupe, je dis pas que c'est pas bien, et au contraire, si on peut avoir un rythme et puis des professionnels qui peuvent nous accompagner, c'est juste fabuleux. Moi, je me souviens que quand j'étais pas formée à tout ça, j'ai erré, quoi, pour comprendre ce que je pouvais faire de plus que de prendre de la vitamine B9, des acides foliques, et franchement, j'ai pas été bien guidée. Donc évidemment, tout ça, c'est très soutenant. Et en même temps, bah, c'est aussi de s'autoriser à ancrer ça. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une des femmes qui m'a dit bah, « J'ai réussi à lâcher le jour où mon conjoint... » On parlait plus des essais bébés depuis un moment parce que c'était vraiment dur pour moi. Et tout tournait autour de ça, donc il y a eu un moment où on a eu besoin de couper un peu de ça, mais j'avais peur justement de plus avoir du tout le contrôle et que ce soit plus le projet. Donc on s'en parlait plus trop. Et puis il y a un moment, on aménageait une voiture pour partir en vacances, et puis un des proches lui a dit d'enlever un des sièges auto à l'arrière. Et il a dit non, on laisse les sièges auto à l'arrière. Et juste, elle savait qu'il savait que c'était le projet. Il n'avait même plus besoin de le dire, c'était acté dans le couple. Et ça lui a permis de se rendre compte que finalement le projet était toujours là, plus vivant que jamais, plus présent que jamais, parce que justement il s'autorisait à recréer des projets autour de bah voilà, on va vadrouiller, et bah s'il y a une grossesse, on changera de plan, je me réinscris à la salle de sport ou à une pratique sportive qui demande une adhésion annuelle. Et bah si je tombe enceinte entre temps, c'est tout ce que je souhaite, on s'adaptera comme n'importe quelle femme enceinte finalement, et on y va et on avance. Oui, on peut voyager, alors pourquoi pas prévoir une assurance annulation au cas où, tout de même sécuriser un peu, mais trouver cette jauge où on ne s'arrête pas de vivre totalement parce qu'il y a des essais bébés. Et ça, je pense que les premiers cycles d'essais, c'est difficile de le faire parce que on peut se dire ça va venir bientôt, et ça arrive plein de fois, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que vous écoutez ça, vous commencez vos essais bébés, de se dire oh là là, ça va durer forcément des mois et des mois. Ça dépend, voilà, ça dépend des situations. Des fois ça marche très très vite, beaucoup plus vite qu'on l'imagine, et ça j'ai déjà fait un épisode là-dessus parce que ça concerne vraiment beaucoup de monde. Et puis parfois ça met plus de temps, et c'est vraiment de ça que je parle, quoi. Ce lâcher prise de ok, faut qu'on trouve l'équilibre entre c'est un réel projet de vie. On parle pas d'acheter une boîte de poireaux, on parle de faire un enfant. Et donc, bien sûr que ça prend au trip, bien sûr que ça nous mobilise tout notre être, et qu'on a de l'espoir malgré tout, on essaye de se protéger, mais bien sûr qu'on se projette. On se projette, hein, entre l'ovulation et voilà, le test positif ou négatif, on se projette malgré tout, on espère. Et puis, ben, quand les règles arrivent, il y a une émotion qui est là, évidemment. Et dans tout ça, les ascenseurs émotionnels peuvent être adoucis. Donc, première chose, voilà, c'est de bien ancrer dans le couple ce projet et de le garder en toile de fond, tout en s'autorisant. Et c'est pas parce que vous vous autorisez à vivre d'autres choses que votre projet, il s'en va. Non, c'est pas le cas. Et j'ai vu beaucoup dans les essais bébés des personnes qui peuvent tellement souffrir qu'elles sont dans une ambivalence entre une obsession permanente qui prend tellement de place, mais vraiment une obsession qui déprime, qui met en colère, qui fait que voir d'autres femmes enceintes, c'est extrêmement compliqué et ça met dans un état psychique vraiment très très dur. Et une résignation. De toute façon, c'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est vraiment... finalement, est-ce que c'est pas une connerie? Et d'osciller entre les deux parce que ça devient insupportable de pas avoir le contrôle. Et je dis pas que c'est simple. Mais faites-vous accompagner si c'est votre cas. Ne restez pas seul. Il faut en parler avec des personnes de confiance. Pas pour rien que nos métiers existent, hein, en tant qu'accompagnants. C'est qu'on est capable d'accueillir aussi ce que vous ressentez sans jugement, sans avoir besoin de surveiller ce qu'on dit. Parce que parfois, c'est ça aussi. On se sent tellement seul, on se sent tellement à côté de la plaque que la confiance en soi, elle en prend un coup. Alors que vous êtes mais tellement nombreuses. Alors, je parlais au féminin parce que c'est beaucoup plus des femmes que j'accompagne. Mais parfois, ça m'arrive d'avoir des hommes aussi qui en souffrent. Parce que ben, c'est très important pour eux aussi, mais très souvent, quand c'est un couple hétéro, ce que je peux observer, c'est que le côté obsessionnel est plus du côté de la femme, et l'homme va être plus présent dans la confiance. Les hommes vont être plus sur le long terme, moins en ascenseur émotionnel montagne russe, mais plutôt linéaire. Alors peut-être que ça vous fera sourire si vous le reconnaissez, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, qui a un des deux partenaires, souvent la femme, mais qui est aussi en première ligne de front. Hein, avec nos cycles, bien sûr que c'est normal qu'on soit les premières à tout observer, à tout ressentir, tout se passe dans notre corps, ça peut être très culpabilisant, très, hein. Donc ça c'est assez facile d'imaginer, et puis il y a beaucoup de femmes qui me disent « moi j'ai un tempérament anxieux, je suis une angoissée de la vie, et mon conjoint est vachement plus cool, et donc il me temporise, et parfois on se comprend pas dans le couple ». Donc je trouve que c'est intéressant aussi de partager cette différence. C'est encore une fois, c'est une généralité. Peut-être que vous n'êtes pas du tout comme ça, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous avez deux tempéraments identiques, vraiment vous ne vous sentez pas marginaux si vous ne correspondez pas à ce que je dis, mais très souvent, il y a ce truc-là de cet homme qui garde le cap en fait. Et j'ai un peu cette image de deux personnes qui pagaient dans un kayak, et puis il y a la personne qui pagaie, qui met beaucoup d'énergie devant pour trouver la direction, et qui parfois s'épuise et qui a besoin de faire des pauses, et puis derrière il y a la personne qui est assise au fond, qui a plus de poids, qui ancre le bateau, et qui va pagayer plus doucement, mais quand la personne devant, qui gère toute la direction quand même de ce qui se passe, fatigue, elle continue de pagayer. Elle n'oublie pas où est l'objectif. Et il y a vraiment cet équilibre-là qui peut être vraiment intéressant. Et aussi de prendre conscience en fait que c'est pas parce que mon partenaire le vit pas comme moi que bah, il lâche l'affaire et qu'il s'en fout. Ça dépend des situations, encore une fois, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Mais si on est bien raccord, finalement, on n'est peut-être pas obligé d'en parler sans cesse et d'en faire vraiment un sujet quotidien. Peut-être au début, parce que on est... Voilà, c'est un peu aussi une nouveauté, l'euphorie, l'espoir, etc. Et si le temps passe, eh bien... on peut aussi s'autoriser à vivre d'autres choses dans le couple. Et la dernière clé que j'avais envie de vous partager de ce retour d'expérience de ces femmes, c'est je désire aimer ma vie aujourd'hui telle qu'elle est et la chérir pour tout ce qu'elle a à m'apporter, que ce soit dans mon couple, dans mon travail, dans ma vie sociale, ma vie familiale, etc. Et puis entre moi et moi, j'ai envie de m'aimer telle que je suis, faire tout ce que je peux faire pour justement optimiser l'ouverture vers une grossesse, mais aussi pour moi, pour mon bien-être. Parce qu'on peut aussi être dans cet état d'esprit de « je veux tout préparer pour réussir à être enceinte ». Alors j'exagère un peu mes mots, mais il peut y avoir de ça, quoi. Je prépare mon corps pour accueillir la grossesse. Et au-delà de ça, on peut être aussi dans une démarche de « tout ce qui me fera du bien va me nourrir, va me restaurer ». Et ça, ce mot-là me tient vraiment à cœur, que ça me restaure physiquement, avec une alimentation qui me nourrit réellement. Et l'alimentation fertilité, c'est pas une alimentation minceur. Il y a, oui, l'équilibre, l'équilibre alimentaire avec les vitamines, les minéraux, les protéines, les bonnes glucides, les bonnes lipides. Mais oui, il y a des lipides, il y a du gras, il y a des bons matériaux, de la bonne nourriture pour nous restaurer, ramener les bonnes vitamines, ramener tout ce dont notre corps a besoin. Et puis l'équilibre émotionnel, psychologique, de créer un climat autour de soi qui nous fait du bien, qui est satisfaisant, pas que pour la grossesse, mais aussi parce que nous, d'abord, c'est-à-dire que pour pouvoir accueillir une grossesse, un accouchement, un postpartum, et puis une vie parentale, le corps, il a besoin de savoir qu'il a tout ce qu'il faut. Et parfois c'est ça, quand ça fonctionne pas tout de suite, on n'a pas, voilà, je dis pas que j'ai toutes les clés, et parfois il y a des raisons médicales hein, qui justifient que ça fonctionne pas, mais quand il n'y a pas d'explication forcément, ou alors quand, encore une fois, on veut mettre toutes les chances de son côté, eh bien c'est de regarder un peu tout, voilà, tous les voyants autour de soi, que ce soit mon hygiène de vie, ma relation de couple, ma relation à moi, ma relation à ma famille, à mes ancêtres, mon travail, et de faire le point sur tout ça et de voir qu'est-ce qui a besoin d'être restauré. Et ça, c'est des questions pour moi qui sont vraiment centrales dans la période des essais bébés, à la fois pour amener au corps et à tout l'être qui s'apprête à ouvrir vers la maternité tout ce dont il a besoin pour pouvoir en créer un autre être humain. Rendez-vous compte, si on a des carences, c'est difficile de créer un autre être humain quand nous-mêmes, en tant qu'humains, on a des carences affectives, alimentaires, etc. Donc ouais, parfois ça marche pas parce que le corps, il sait que bah, y a pas tout, quoi. Donc tout ça, on regarde au-delà de est-ce qu'il y a un problème de fertilité, ben parfois c'est ces choses-là qui vont faire que ça se décante, et ça passe par je me restaure et je prends du temps pour moi. Vous voyez, tout se rejoint finalement. Voilà, ça me tenait vraiment vraiment à cœur de vous partager ces réflexions qui sont encore fraîches dans ma tête, et peut-être que ça vous fera écho, peut-être qu'il y a des choses que vous allez piocher dans tout ça qui vont vous permettre aussi de vous recaler, vous resituer dans vos essais bébés, et de voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous oubliez? Est-ce que vous êtes heureuse, là, maintenant? Est-ce que ce que vous mettez en place vous satisfait, ou vous sentez qu'il y a encore des choses à voir qui ne vous permettent pas de lâcher, parce qu'en fait, vous n'êtes pas au bout de ce que vous voulez mettre en place pour vous et pour pouvoir accueillir cet enfant un jour dans votre vie? Si vous avez besoin d'aboutir dans la réflexion aussi de « est-ce que je suis vraiment prêt, prête, est-ce qu'on est prêt de vérifier, voilà, tout ça, eh bien, on en parle, voilà, les discussions, elles sont faites pour ça, en accompagnement, c'est un accompagnement à 360 degrés. Moi, je suis votre partenaire dans tout ça, on ouvre ces sujets, on ouvre les champs, et s'il y a besoin de rediriger vers des professionnels plus précis sur certaines choses, parce que bien sûr, moi, je suis là pour apporter aussi des informations sur tout ce que je viens d'aborder, hein. Que ce soit l'alimentation, l'hygiène de vie, la relation de couple, la pratique sportive, les relations familiales, etc. Et quand il y a besoin d'une démarche plus thérapeutique, ou alors d'un cadre vraiment axé sur un thème vraiment très très précis sur beaucoup de séances, ou alors parce que vous avez un profil particulier par rapport à votre santé, etc., ben là on redirige vers d'autres professionnels de la santé, du soin, de la thérapie, etc. Et déjà en accompagnement, on fait un tour d'horizon qui moi m'aurait vraiment fait du bien, ouais, à l'aube de devenir maman, et qui m'aurait peut-être permis de pas rattraper certains trucs après qui étaient pas ok, quoi. Que ce soit mon taux de fer, ma relation à mon père, ça rime, mais c'est pas faux, quoi. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui sont importantes de checker. Alors on peut pas, hein, c'est un peu le sujet, on peut pas tout maîtriser, mais il y a des choses dont on peut parler, faire le point et voir ce que ça nous fait, quoi. Et ça, pour moi, ça fait partie du lâcher prise. C'est peut-être contradictoire, on se dit « Ah, lâcher prise, on ne parle pas de tout ça, on fait complètement autre chose ». Non, c'est pas ça. C'est on laisse la place à ce projet, on le fait vivre. Il existe, il est là à l'intérieur de moi, j'y pense tous les jours. Ben en fait, j'ai besoin d'une résonance, de pouvoir en parler, de l'élaborer, de m'ancrer dans ce projet-là, de créer des vraies racines pour moi et puis pour mes futurs enfants, et d'ouvrir la positivité, de l'accueillir tout en ayant d'autres choses dans ma vie, en les nourrissant et en ne culpabilisant pas parce que je fais d'autres choses et que je kiffe et que c'est génial et que ça me fait plaisir, et en même temps en ne culpabilisant pas de penser à ce futur bébé qui n'existe pas encore et d'élaborer certaines choses, en fait tout à sa place, simplement voilà, de s'autoriser à vivre chaque chose au bon moment. Voilà, voilou, j'espère que ça vous a éclairé, je suis très contente d'avoir pu partager cette réflexion avec vous, je suis sûre que ça va nourrir plein de monde, je suis vraiment convaincue de ça, parce que quand ces accompagnés ont pu poser ces mots-là, ça m'a vraiment fait des frissons, des pépites dans le cœur. J'ai eu la sensation de toucher une notion dans le concret, vous voyez, c'est... Ah, je pige des trucs, quoi. Et ça veut pas dire que ce sera vrai pour tout le monde, mais quand même, je trouve que ces réflexions-là, de personnes qui sont dedans et qui sont pas encore mamans, quoi, eh bien, je trouve que leurs partages sont archi précieux. Donc merci à vous pour ces retours, ces échanges en accompagnement. Vraiment, c'est d'une grande richesse. Je sais que l'accompagnement vous fait du bien, mais alors, vous aussi, vous faites du bien à la fois à moi en tant qu'accompagnante, mais aussi à plein de gens dans le podcast. Donc c'est très chouette. C'est vraiment un partage... Le podcast, il y a vraiment un truc particulier où, ok, on n'est pas en train de pique-niquer dans l'herbe tous ensemble, se faire un apéro, tour de table, petit-déj, café, etc. Mais je sais que je rentre dans les oreilles de plein de gens, dans leur intimité, j'ai plein de messages qui me disent que voilà, j'ai l'impression de te connaître, tu m'apportes tellement, etc. Alors on ne se connaît pas directement, mais il y a toujours un élan du cœur quand je viens vous partager ces choses-là, et je suis touchée de savoir que ça voilà, ça peut vous épauler. Je reçois des messages que je lis pas forcément en témoignage dans le podcast, mais voilà, surtout des femmes, parfois des hommes aussi, mais surtout des femmes qui me disent que j'ai pu, à travers mes réflexions, leur apporter mais tellement de réconfort dans des moments pas faciles, sans forcément qu'il y ait un gros problème, une pathologie ou quoi, mais elles se sentaient seules. Et ça me fait un bien fou de me dire que le podcast vous apporte ça, et je compte bien le continuer encore longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je croise les doigts de pied, les mains, enfin, tout ce que je peux croiser pour vos essais bébés, parce qu'on est quand même là pour ça, ok? Donc on garde le cap, et si vous avez besoin d'en parler, je suis là, en visio, en présentiel si vous êtes dans le 56 ou à côté, ça me ferait trop plaisir de vous voir. Je vous souhaite toute la réussite, tout l'apaisement, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsournaitre.fr. À bientôt.